voyez, ce matin, j'ai à cœur de parler du... Est-ce que tout le monde connaît ici le jeu Jacadi? Donc si je vous dis, Jacadi, mettez-vous le doigt, l'index droit sur le bout du nez? Bon, tout le monde ne connaît pas Jacadi. OK. Ça va? Quels sont ceux qui ne connaissent pas Jacadi? Le jeu Jacadi, OK. Alors, Jacadi, en fait, c'est un jeu que beaucoup ont joué dans les cours d'école. Et puis, il y a quelque temps de ça, il y a Sandy qui est arrivé à la répétition de louange et qui nous a exhortés sur un passage de Jacques. Et puis j'ai vraiment reçu dans mon cœur Jacadi. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai reçu ça dans mon cœur quand Sandy a partagé ça. Ça fait maintenant peut-être un mois qu'elle a partagé ça. Et j'ai reçu Jacadi dans mon cœur. Et je me suis dit, mais pourquoi, Seigneur, je reçois là Jacadi, Jacadi. Et en fait, Dieu m'a dit Jacques 4:10. Ça va? Jacques 4:10. Jacadi, Jacques 4:10. OK? Et donc, si on peut triturer un petit peu cette expression Jacques a dit, il y a Jacques a dit, Jacques 10, Jacques a 10 et Jacques 10, 4. D'accord? Jacques 4, 10, pardon. On peut triturer toute la chose comme ça. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis plongé dans l'épître de Jacques. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ici l'épître de Jacques, qui connaissent bien l'épître de Jacques? L'épître de Jacques est très particulière. Elle est très forte, elle est balèze et elle fait mal. Elle fait mal. Pourquoi? Parce que dès le départ, quand on commence, dès le verset 2, vous pouvez vous rendre compte que Jacques va tout de suite dans le vif du sujet. Et il faut savoir que dans cette épître-là, Jacques s'adresse aux Juifs. Il s'adresse aux Juifs qui ont un cœur et qui ont envie de vivre quelque chose pour Dieu. D'accord? Donc, hormis le fait que on ne sait pas de quel Jacques on parle, certains historiens pensent que c'est le frère de Jésus qui parle dans cette épître. Mais bon, peu importe, on n'est pas là pour épiloguer sur ça. Mais dès le départ, et vous allez voir qu'on va triturer ça, mais vous allez voir que dès le départ, Jacques rentre dans le vif du sujet. Avant, donc ça c'est mon introduction, elle est longue mon introduction, elle est sympa, mais elle est longue. Mais avant ça, je vais donner la parole à Josine. Parce que Josine est venue me voir tout à l'heure, et elle m'a dit, Fred, j'ai à cœur de te soumettre quelque chose, j'ai reçu un rêve cette semaine. Et Dieu m'a remis ce rêve une deuxième fois. Et elle a demandé à Dieu, mais quelle est la signification de ce rêve? Et je vais lui laisser le loisir de venir vous le dire. Vas-y, viens, Josine. Viens avec moi sur l'estrade. Allez, on va t'élever un petit peu. Tu vas monter sur l'estrade, Josine. Attends, je vais te le donner le micro.
Bonjour à tous. En fait, bon, le rêve, je l'ai fait, je crois que c'était dans la nuit de mercredi à jeudi. Et ça m'a tellement impacté, ça m'a attristé en même temps parce que ça concernait l'église. Et donc voilà, si je suis émue, vous étonnez pas. En fait, dans le rêve, c'est comme si on était à Auchan, en fait. Auchan, vous voyez, la galerie marchande. Et en fait, il y avait plusieurs niveaux. Mais c'était l'église, en fait. L'église était dans Auchan. Et du coup, à un moment, j'ai vu des gens, enfin, vous savez, un peu dans l'ancien temps, les royaumes africains où les gens mettaient un peu comme des slips drapés avec des bâtons et tout, enfin, un peu quelque chose de traditionnel, en fait. Et du coup, ils dansaient et je disais, mais qu'est-ce qu'ils font là dans l'église? Enfin, j'étais interpellée. Et du coup, je disais, il faut que j'appelle Sandy tout de suite pour lui dire de les arrêter, pour qu'ils partent. Donc, du coup, là où j'étais, en fait, je pouvais rien faire. Mais par contre, j'avais un téléphone. Donc, j'ai pris le téléphone et du coup, j'appelais Sandy pour dire, Sandy, il faut qu'ils sortent, il faut que tu les fasses partir. Et du coup, je me suis réveillée. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ce rêve? Donc, bon, j'ai prié, hein, parce que généralement, quand on fait ce genre de rêve, on se dit, il faut prier. Donc, j'ai prié, cherché la face de Dieu. Et ce matin, le Seigneur me remet encore à cœur ce rêve. Sauf que moi, je n'avais pas l'intention de le partager, parce que je me suis dit, je vais prier pour ça, je vais partager à l'intercession. Ce matin, je dis, je vais à l'intercession, je partagerai, comme ça, on priera pour l'église. Sauf que ce matin, j'arrive à l'intercession, j'étais toute seule. Donc là, le Saint-Esprit me dit, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que voilà, on a un peu... La pensée que j'avais, c'était la tradition, en fait. Des fois, on est dans des traditions, dans des habitudes. Et ce matin, je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et le Seigneur me donnait le verset dans Matthieu 15, au verset 8, où il disait, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Du coup, j'étais là, waouh, Seigneur, j'étais triste et j'avais les larmes aux yeux. Du coup, je commençais à dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, on est dans, on te célèbre, on chante ton nom, on fait ce qui peut nous paraître bon, mais en fait, au fond, nos cœurs ne sont pas à toi, en fait. Et du coup, ce matin, comme j'étais toute seule à l'intercession, j'ai prié. Et après, j'arrive, je dis, mon cœur était lourd, je savais qu'il fallait que je partage. Et Dieu merci, j'ai vu Fred et je suis allée le voir. Et quand je l'ai partagé, je me suis sentie légère. Et je pense que le Seigneur, ce matin, veut vraiment nous encourager. L'Église, c'est la maison de Dieu. C'est un Dieu où il y a la gloire de Dieu. Et quand on vient dans la maison de Dieu, et ben, qu'est-ce qu'on vient faire dans la maison de Dieu? Comment sont nos cœurs, en fait? Est-ce que nos cœurs sont tout entiers à Dieu? Et ça, c'est nous devant Dieu, en fait. Parce qu'on peut être là, on célèbre, on chante, mais Dieu voit nos cœurs. Parce qu'on peut se cacher devant les hommes, mais on ne peut pas se cacher devant Dieu. Et donc, je veux vraiment nous interpeller, nous encourager. Même moi, ça m'encourage parce que ça m'a changé de mes habitudes. J'avais pas envie de venir devant pour parler, pour le dire, parce que je dis, mais Seigneur, je me sens pas légitime, parce qu'habituellement tu me parles par des paroles de prophétie, des paroles de connaissance. Mais là, le Seigneur vient aussi me sortir de mes habitudes. C'est oui, des fois je te parle avec des paroles, mais là c'est un rêve que je vais utiliser. Amen.
C'est important d'avoir des paroles de connaissance dans une église. C'est important d'avoir des prophéties dans une église. C'est important lorsque Jésus dirige son peuple, lorsque Dieu nous parle. C'est important de retenir tout ce que Dieu nous dit. D'accord ? Vous êtes d'accord avec ça ? Vous êtes d'accord avec ça ? Ouais. Pourquoi ? Parce que la parole nous dit, et on va le lire tout à l'heure, enfin, on va, non, c'est pas dans ce chapitre-là, mais la Bible nous dit clairement que nous, on ne doit pas être des auditeurs oublieux. On ne doit pas être des auditeurs oublieux. Il faut absolument que l'on puisse recevoir ce que Jésus veut mettre dans notre cœur. Et si ce matin, vous êtes là par habitude ou par religion, ça sert à quoi ? Ce que Dieu veut, c'est réellement que l'on puisse grandir, que l'on puisse rentrer dans une croissance avec lui, avoir une vie spirituelle qui soit bénéfique, qui soit bonne, et que l'on puisse repartir d'ici meilleur que ce que l'on a été, enfin, ce que l'on était quand on est rentré. D'accord ? Et ce que je vous dis là, ce n'est pas histoire de vous dire, bah, tiens, c'est bien, c'est joli, etc. C'est, voilà, on va encore se prendre une louche ce matin parce que Fred est sur l'estrade, etc. C'est partout pareil. Dans le monde, il faut absolument que l'on puisse grandir. Il y a des choses où on nous appelle à grandir. Et tout particulièrement dans l'Église. Dans l'Église, on se doit de pouvoir ressembler de plus en plus à notre Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu a fait l'homme à son image. Il a voulu que l'homme lui ressemble. Et ça a été quelque chose pour lui d'hyper important. Dieu a fait en sorte que l'homme lui ressemble. Et quand l'homme a trahi Dieu, il a été, je pense, très, très chagriné parce que l'homme a trahi, s'est trahi lui-même, mais a trahi Dieu. Ils se sont trahis. Son propre lui-même s'est trahi. Alors, je suis désolé, là, ce matin, on va déjà commencer par une grosse lecture. Allez. Pourquoi ? Parce que lorsque j'ai reçu Jacques a dit, voilà, Jacques a dit. Donc, Jacques, c'est 5 chapitres, on ne va pas lire les 5. Rassurez-vous, d'accord ? Mais si, pour ceux qui souhaitent venir demain, je vous exhorte, ça prend une demi-heure, lisez les 5 chapitres. Et ne les lisez pas comme on lit un bouquin, quoi que ce soit. Prenez bien le temps de peser chaque mot, parce que chaque mot est important dans Jacques. Chaque mot. Pourquoi ? Parce que Jacques a laissé un peu de côté tout l'aspect grâce. Vous savez, tout ce qu'on aime bien dire, mais il est parti dans du factuel, dans quelque chose qui est concret. Il a dit, voilà, si tu veux avoir une bonne vie spirituelle, alors il faut que tu fasses ça. Donc on y va, Cassandre. On passe à la première dia. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut ! Salut ! Verset 2, on rentre direct dans le truc. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Boum, premier coup de massue. Allez. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. On y va. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, on pèse bien chaque mot, hein. Prenons le temps ce matin, on va prendre le temps. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve, dans l'épreuve, on va faire fonctionner notre foi. Notre foi va faire fonctionner notre patience. On est d'accord ? Ça descend là, on est sur une cascade. OK ? Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Je vais pas. Vous savez que j'aime bien relire plusieurs fois les versets. Et quand je suis à la maison, je prends du temps. Quand je lis ma parole, je la lis tout doucement parce que je relis plusieurs fois des versets. Je lis, je relis, je suis un peu comme les vaches. Vous savez, je rumine, j'avale, hop, ça revient, je rumine une nouvelle fois. Je fais comme ça, je suis le premier qui me traite de vache. D'accord ? Attention, hein. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Boum, allez, une deuxième louche. C'est-à-dire qu'on est dans l'épreuve, l'épreuve va faire marcher notre foi va faire fonctionner, elle va faire grandir notre patience. Et si on n'est pas assez patient, eh bien, on te dit littéralement, bah, écoute, tu demandes à Dieu, il va te donner de la sagesse. Parce que la demande qu'il a demandée à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Dieu ne va pas te reprocher de lui demander de la sagesse. Dieu ne va pas te demander, te reprocher de lui demander de la sagesse. Tout comme Dieu ne va pas te reprocher quoi que ce soit si tu lui demandes. Et elle lui sera donnée. Là, c'est pareil. C'est quelque chose, c'est une affirmation. Et elle lui sera donnée. Vas-y, Seigneur, donne-moi de la sagesse. Boum, tu la reçois. Il n'y a rien, il n'y a pas de condition. D'accord ? Mais qu'il la demande avec foi. Là, voilà la condition. Qu'il la demande avec foi. Donc, on revient, la boucle est bouclée. Dans l'épreuve, on fait fonctionner notre foi fait fonctionner notre patience. Si on n'a pas assez de patience, eh bien, il faut qu'on demande la sagesse. Mais pour avoir la sagesse, il faut qu'on ait de la foi. Donc, on revient au point de départ au-dessus. D'accord ? La boucle est bouclée. Sans douter, d'accord ? C'est le principe de la foi, hein. On ne doute pas. Quand on a de la foi, on ne doute pas. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est-à-dire que notre foi, si on a un doute dans notre foi, on est irrésolu dans notre foi. C'est-à-dire qu'on est inconstant. Pour Dieu, on est des inconstants. Il faut absolument qu'on puisse avoir une ferme assurance des choses qu'on demande à Dieu. Une ferme assurance. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Et c'est là le cœur de ma prédication ce matin. Je vais parler de l'humilité. L'humilité. Parce que l'humilité est un point d'or, c'est un outil d'or pour Dieu. Et là, la première constatation, c'est ça, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est Jacques 4, 10. Et on va le prendre juste après les quelques dias du chapitre 1. Et vous verrez que là, c'est pareil, la boucle est bouclée. Dieu veut absolument que nous puissions travailler dans le fait de mettre Dieu à sa place. C'est quoi mettre Dieu à sa place? C'est quoi mettre Dieu à sa place? Est-ce que c'est le mettre sur une étagère et mettre une jolie petite statue, comme beaucoup font? Il y a quelques temps de ça, je suis allé visiter ma sœur qui est dans un établissement spécialisé. Et ma sœur a toujours refusé Dieu. Et mes sœurs ont refusé Dieu à part. Enfin, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais celle-ci, en l'occurrence, enfin les deux qui restent, elles refusent Dieu. Et voilà. Je pense qu'elles ont eu un bourrage de crâne il y a longtemps de ça. Et voilà. Aujourd'hui, elles ne conçoivent pas notre foi en Dieu, etc., etc. Et quand je suis allé la visiter, il y a 3 semaines de ça, je me suis rendu compte qu'elle avait une photo de la Vierge sur sa table de nuit. Je me suis dit, mais c'est un non-sens. Tu refuses tout ce qui a trait à Dieu, mais tu vas aller... Pour moi, c'était quelque chose qui était un peu... Ça dénotait par rapport à toute cette... Je ne vais pas dire cette haine, mais toute cette agressivité envers nous quand on parle de Dieu. Alors attention, la Vierge, c'est pour certains une représentation de Dieu, parce que vous savez que beaucoup passent par la Vierge pour parler à Dieu. Ça ne sert à rien, clairement, hein, je vais le dire ici. Ça, c'est ma conviction, on ne parle pas aux morts. D'accord ? La Vierge est morte. Hein. Bon. Là, j'ai peut-être soulevé un truc, là. Bon, bref. Et en fait, j'en ai parlé avec ma mère, et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a ça sur sa table de nuit ? Parce qu'elle a... Elle refuse tout ce qui a trait à Dieu, tout ce qui est... Voilà, et puis là, je vois, elle a ça sur sa table de nuit. Et elle m'a répondu, sache que depuis quelque temps, elle réclame une Bible. Et je vais lui donner une Bible. Ma sœur réclame une Bible. C'est-à-dire qu'elle arrive à... Dieu arrive à forger un petit peu son cœur et arrive à prendre une place dans la vie de ma sœur. Et au fur et à mesure du temps, il y a Dieu qui... Enfin, Jésus travaille son cœur et au fur et à mesure, il avance à tout petit pas et il arrive à se faire une place dans sa vie. Et c'est ça, faire la place, remettre Dieu à sa place, c'est ça. Ce n'est pas le mettre sur une étagère avec une photo ou une statue. C'est faire en sorte qu'on puisse le laisser agir comme lui l'entend dans notre cœur. Parfois, ça pique. Parfois, ça fait mal. Parfois, on est soit déçu, parce qu'on peut être déçu, hein, clairement. Hein. Dernièrement, là, j'ai eu une confrontation avec un couple et voilà, ils ont été déçus et il y a quelque chose qui a été cassé. Bon, je crois que Dieu va continuer à restaurer leur cœur, mais voilà, il y a une déception de la part de Dieu et envers Dieu. Mais Dieu ne fait rien par hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Quand Dieu travaille, quand Dieu commence une œuvre et quand tu lui laisses le loisir, quand tu lui laisses l'opportunité de travailler dans ton cœur, Dieu va travailler et Dieu va travailler et Dieu va gratter là où ça fait mal. Et Dieu va faire en sorte aussi que tu puisses te réjouir là où ça fait du bien. Parce que Dieu n'est pas un Dieu, vous savez, comme on disait avant, ben voilà, les enfants méchants à Noël, vous aurez du charbon parce que vous avez été méchants, parce que voilà, le petit Jésus t'a puni, comme on disait quand j'étais petit. Vous avez entendu ça? Le petit Jésus t'a puni? Moi, quand j'étais petit, quand on faisait la crèche, on me disait, attention, tu vas pas avoir Noël parce que tu vas être puni par le petit Jésus. Vous savez, celui qui est dans la crèche, là, qu'on a couché dans la... Et ça, on cultive ce style d'expression. Le petit Jésus te... Non, Jésus n'est pas là pour punir. Jésus n'est pas là pour te faire du mal. Il est au contraire, il est là pour te faire du bien. Il est là pour te faire grandir. Mais pour cela, il faut que tu lui laisses la place. Il faut que tu puisses, toi, te diminuer pour que lui puisse grandir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais de toute façon, même si vous ne l'êtes pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que c'est écrit là que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Parce que forcément, si tu te fais humble devant Dieu, Dieu t'élèvera et Dieu fera en sorte que tu puisses t'épanouir, avoir une onction sur toi, une onction de l'esprit sur toi. Et Dieu fera des grandes choses avec toi. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Vous connaissez cette expression? Alors je sais, je suis un quinca, voilà, j'ai 50 ans, j'utilise des vieilles expressions, les jeunes n'utilisent plus, mettre la charrue avant les bœufs. Ça se dit plus, ou peut-être, je ne sais pas. Ça se dit encore, ça, mettre la charrue avant les bœufs, Nicolas, tu l'entends? Voilà. Merci de ton soutien, mon fils. Ça fait du bien. Hein, mettre la charrue avant les bœufs, c'est de vouloir faire les choses à la place de Dieu. Dieu peut très bien t'appeler à quelque chose de bien particulier dans ta vie, mais sache qu'il le fera en son temps et en son heure. Tu peux aspirer à ce que lui a mis dans ton cœur, effectivement. C'est quelque chose qui va se mettre en place. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je disais, les prophéties ou les paroles de connaissance, soit il faut les enregistrer, soit il faut les écrire. Mais souvenez-vous-en, je crois que c'est Elisabeth qui les note, les prophéties. Hein, il me semble que tu les notes. C'est important. Moi, j'ai des prophéties, encore cette semaine, des prophéties que j'ai reçues en 2018, je les ai réécoutées cette semaine et je les ai fait écouter à Pascaline en disant, regarde, il y a des choses qui se passent. La prophétie que j'ai eue en 2018, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Pourquoi? Parce que c'est le temps de Dieu. Mais dans ces cas-là, je ne vais pas pousser à la roue de Dieu, je vais faire en sorte que Dieu puisse agir comme lui l'entend et pas comme Fred l'entend. Amen. On continue. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Se glorifier d'une humiliation? Se glorifier d'une humiliation, c'est bizarre comme non? Vous ne trouvez pas que c'est une phrase bizarre? Je vais me glorifier, ouais, merci Jésus parce que tu m'as humilié. Non? Ça ne vous choque pas, ça? Bon. Car il passera comme la fleur de l'herbe, le soleil, on va passer à la suite parce que là, c'est... Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et là, ça, c'est un verset qui est hyper important. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Qui ici n'est pas tenté? Qui n'est pas tenté? Je suis le seul à ne pas être tenté. On est tous tentés. On est tous tentés. On a tous des tentations. Mais on a tous, là, une notion importante, c'est que dans la tentation, dans l'épreuve, il faut absolument que Dieu dise, c'est moi qui vais gérer. Lâche la barre, lâche le volant. Fais en sorte que moi, je puisse te montrer comment tu veux, que je puisse te montrer, oui, comment je vais agir. Parce que Dieu, c'est lui qui va agir. C'est lui qui veut prendre la place. Il est jaloux. C'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. C'est écrit dans Jacques 4. Je ne vais pas le lire. C'est écrit dans Jacques 4. Dieu dit qu'il est jaloux. Il est jaloux de l'esprit qu'il a mis en vous. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La couronne de vie. Mais on devrait se réjouir d'avoir une couronne de vie. On devrait dire merci Seigneur et se réjouir tous les jours. Alors je sais que moi je suis hyper souriant sur mon visage, ça se voit, hein, mais je me réjouis. Ça n'empêche que des fois je dis, mais Seigneur, oh. Cette semaine j'ai vécu une chose assez amusante, c'est une petite parenthèse par rapport à ma prédication. J'aime beaucoup les oiseaux, d'accord? À la maison, on a un petit rouge-gorge, et je raffole, il est magnifique, je raffole des rouges-gorges. J'ai des mésanges qui viennent, et bien sûr, j'ai des étourneaux, des merles, des tourterelles, j'ai un pivert, j'ai un piquet-pêche. Vous voyez, je peux vous faire la liste de tous les oiseaux qui viennent à la maison, c'est super beau à voir. Voilà. Le premier qui se fout de moi, hein, ça va? D'accord? Et puis, cette semaine, bon, on a le privilège, c'est que quand je déjeune dans ma cuisine, j'ai la vue sur mon jardin, et il n'y avait pas d'oiseaux. Et pas d'oiseaux ce matin-là. Je dis, mais Seigneur, j'ai envie de voir des oiseaux. Je voudrais, s'il te plaît, envoie-moi des oiseaux. Et Pascaline, elle se joint à moi pour le petit-déj. Et à un moment, je dis, Pascaline, regarde. Et un truc qui n'est jamais arrivé à la maison, il y a trois couples de mésanges qui sont arrivés juste après que j'ai prié. Et il y a une mésange qui est venue nous voir. Pascaline était à 80 cm de la mésange. Elle est venue jusqu'à la fenêtre de la cuisine. Elle nous a fait coucou avec sa petite, avec son aile. Je vous assure, elle nous a fait coucou avec son aile. Elle a dit, c'est Jésus qui m'a dit de venir vous faire coucou. C'est bateau ce que je vous dis là. Mais j'ai demandé avec foi à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'aime les oiseaux, envoie-moi des oiseaux, j'ai envie de ça. L'été, j'aime dormir avec la fenêtre ouverte parce qu'on entend les oiseaux chanter à 5h du mat. Et Dieu a répondu à ma prière instantanément. Et Pascaline était subjuguée parce qu'elle ne les voit pas, les mésanges. J'ai dit, ouais, et moi, j'aime bien les voir, mais là, elle l'a vu à 80 cm. Et donc, le lendemain, on est allé acheter des mangeoires et des nichoirs, on en a mis plein dans le jardin. Parce que la nature est belle. Dieu nous a donné des choses bonnes. Dieu a fait en sorte que l'on puisse être heureux. Je ne vous cache pas que je ne suis pas heureux tous les jours non plus. Je ne vais pas non plus sauter de joie quand je sors du lit. Je ne suis pas à dire, ouais, merci Jésus, parce que je suis vivant, parce que ceci, cela. Non. Mais par contre, il faut savoir dire, oui Jésus, c'est vrai, tu as fait les choses bonnes. Est-ce que Dieu a fait des choses bonnes dans votre vie? Ou est-ce qu'on est. Vous êtes. Il se peut que vous soyez ce matin frustré et que vous n'entendiez pas ce que je suis en train de dire. Et que vous puissiez. Je comprends tout à fait que vous puissiez me dire, mais Fred, moi je ne le vois pas, Dieu, dans ma vie. Je ne le vois pas. C'est complètement possible. Mais à ce moment-là, fais tes devoirs. En tant que chrétien, on a des devoirs à faire. Je l'ai encore dit la semaine dernière à des personnes. J'ai dit, voilà, quand tu es chrétien, comme à l'école, quand tu as ton instit, qui, on ne dit plus instit, hein, mais moi j'aime bien instituteur, c'est joli le terme instituteur. Ton instit, tu as toute ta journée de travail et le soir, il te donne des devoirs. Tu as peut-être une poésie à apprendre pour le lendemain ou de la grammaire à faire, des mathématiques, et du calcul mental, etc. Tu as des devoirs à faire. Le chrétien, c'est la même chose. C'est la même chose. Pourquoi, d'après vous, on remet croissance en route demain? Tout simplement parce que vous allez faire vos devoirs. Je ne dis pas que vous ne les faites pas, mais il faut absolument qu'on puisse aller plus loin encore. Et la Bible nous exhorte à étendre les cordages de notre tente. À étendre les cordages de notre tente. Ça veut dire quoi? C'est qu'on veut une tente encore plus grande. Et une tente encore plus grande. Vous avez envie de ça? Qui a envie de ça? Moi, j'ai envie de voir ma tente élargie. Je veux voir la présence de Dieu dans ma vie, dans la vie de l'Église, dans la vie de chacun. Je veux qu'on puisse avoir des fois des cultes de témoignages, des cultes où il y a des personnes qui vont se... Vous allez vous battre pour prendre le micro en disant « Mais non, mais moi, cette semaine... Non, c'est moi. Moi, cette semaine, Dieu, il a fait ça pour moi. » Non, non, je voudrais ça. Que l'on puisse dire « Merci Seigneur, parce que cette semaine, j'avais un désir dans mon cœur, j'avais une tristesse dans mon cœur, ou j'avais une situation inextricable, quelque chose où l'homme ne peut rien faire. » Et toi, tu as ouvert toutes les portes. Vous savez quoi? Je vous donne un témoignage de notre famille. Tout frais. Mon fils Nicolas part la semaine prochaine en Afrique pour une mission au Burkina Faso. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a tout mis en place. Et on a vu des choses se mettre en place de façon miraculeuse. Et donc, on ne pouvait pas dire non à Dieu. Quand c'est comme ça et que Dieu met des choses en place, je t'interdis de dire non à Dieu. On a eu des bâtons dans les roues et on a refusé. On a dit non, c'est Dieu qui a mis les choses en place. Juste un exemple, Il est dans son école, il fait une demande d'absence. Il va être absent à l'école pendant une semaine. Il est en prépa ingénieur. Je me permets, Nicolas, hein, je donne quelques détails, ça ne t'embête pas? Il est en prépa ingénieur. Être absent pendant plus d'une semaine en prépa ingénieur en deuxième année, c'est chaud, parce que juste derrière, il a des partiels. Donc, il fait une demande d'absence. Chose qui n'arrive jamais, ils ont accepté. Ils ont accepté. Il y a eu des détails qui ont fait que les choses se sont mises en place, et puis mises en place, et puis mises en place. Et moi, ce que je prie maintenant, et j'espère que l'Église va pouvoir prier pour lui, et que vous allez prier pour Nicolas, pour que pendant cette semaine-là, il se passe des choses dans sa vie, et qu'il puisse rentrer dans son appel. Moi, c'est le désir d'un père, c'est le désir du pasteur également. C'est le désir de l'homme envers un jeune. Nos jeunes, les jeunes, vous n'êtes pas des accessoires, les jeunes. Vous n'êtes pas là pour faire joli. Vous n'êtes pas là pour occuper une chaise. Vous êtes là parce que Dieu vous appelle. Pareil pour les plus vieux. Vous n'êtes pas des meubles. Et ce que j'ai dit à mon fils, c'est sois humble. Il faut absolument qu'il puisse accepter certaines choses. Encore hier, je lui disais, mais il y a des choses qu'il faudra que tu fasses et que des choses qu'il ne faudra pas que tu fasses. Des choses que tu auras le droit de dire, des choses que tu n'auras pas le droit de dire. Il y a une soumission. Il ne part pas seul, hein, je vous rassure. Est-ce que vous sentez le feu qui est là? Là. Est-ce que vous avez le même feu que moi, là? Et si vous ne l'avez pas, moi, ce que j'aimerais, c'est que le feu que moi, j'ai là, dans mes tripes, je voudrais vous en communiquer une part. Une prophétie comme celle que vient de donner Josine, ça fait mal. S'entendre dire que l'Église est au flunch, ou chez Auchan, et puis qu'on prend ce qui nous arrange, et puis on laisse ce qui ne nous arrange pas. Eh bien, ce n'est pas ce que nous demande la Bible. La Bible veut qu'on prenne soit la Bible, ou rien. Et pour ça, il faut avoir cette humilité de dire, Seigneur, si j'ai besoin d'une petite claque aux fesses, mets-moi une petite claque aux fesses, ou un petit coup de pied au derrière. Il faut pouvoir l'entendre. Et il faut aussi des fois se dire, mais Seigneur, moi, quand j'ai besoin de venir dans tes bras, ben, tu m'accueilles, tu as les bras grands ouverts. Et je sais que quand j'ai du chagrin, que j'ai de la peine, ou même quand je me réjouis, je peux aller et je peux me mettre contre toi, Seigneur, parce que tu m'accueilles dans cette intimité. J'ai cette humilité de me rapprocher de Dieu. C'est Jean qui faisait ça, l'apôtre Jean. Il allait, c'était le seul, c'était le chouchou de Jésus. Il avait un chouchou dans ses 12. Et il venait et il mettait sa tête sur l'épaule de Jésus. Vous pouvez lire dans Jean. Hein. Je continue parce que là, du coup, je vais être en retard dans tout ce que je dis. J'ai beaucoup de choses. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Non, ne dites pas ça. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, donc il ne tente lui-même personne. Ça va, ça? Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont passés dans l'Église, et parfois vous en voyez qui ont tout quitté. Ils ont tout quitté parce qu'ils ont laissé une porte ouverte au diable. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse dire que oui, il y a un Dieu, oui, il y a un diable. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est capable de dire « Non, le diable n'existe pas » ? Est-ce que tu es capable de dire « Non, l'enfer n'existe pas » ? Aujourd'hui, il y a des mouvances qui disent que bah oui, il y a un purgatoire, que Dieu va nous mettre dans une petite pièce en attendant pour qu'éventuellement on puisse se rattraper. Non ! Non ! Ta vie sur terre, elle est faite pour que tu puisses dire « Oui, Seigneur, je veux être avec toi » ou « Non, Seigneur, je ne veux pas être avec toi ». Et une fois que tu meurs, le tour est joué. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Waouh, waouh, waouh! Et là, toute l'église dit « Wa, wa, wa !» Entraînez-vous, on le refera demain. Obéir à Dieu est ta première des missions. Si tu obéis aux hommes, t'es foutu. Je parle d'un point de vue spirituel. Il faut avoir cette humilité pour être devant Dieu ou pouvoir accepter des fois que ton pasteur vienne te dire des choses ou vienne te reprendre. Parce que les ministères sont mis en place par Dieu. Et donc parfois, quand ton pasteur vient te reprendre, accepte-le des fois. Accepte ça. Mais accepte surtout de pouvoir travailler avec et pour Dieu. Allez, je termine rapidement le chapitre 1. Sachez-le, mes frères, mes bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ouais. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Eh ouais. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, on parle bien de liberté, la parole de Jésus veut nous amener à la liberté, parce que là où est la liberté de l'esprit, là est la liberté, je vais y arriver, je vais la refaire. Là où est la liberté, non, c'est l'inverse, là où est l'esprit, là est la liberté. Allez, là où est l'esprit de Dieu, là est la liberté. Amen. Vous avez vu, j'ai réussi. Là. Et qui aura, voilà. N'étant pas un auditeur oublieux, vous voyez, je pensais que c'était dans Jacques 4, mais non, c'est dans Jacques 1. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alors rien que dans un verset ici, on se prend une grosse louche là. D'accord? Pourquoi? Parce que Dieu veut absolument que nous soyons heureux. Dieu connaît les plans qu'il a faits sur toi. Je suis sûr que vous pouvez tous me donner cette référence de ce verset. Jérémie? Personne? 29:11. Jérémie 29:11. Car Dieu a dit, je connais les plans que j'ai mis sur toi. Pas de plan de malheur, mais des plans de réussite. Ce n'est pas du par cœur ce que je vous dis là. Dieu veut absolument que nous puissions être heureux avec lui, parce qu'il a mis des plans sur notre vie pour que nous puissions être élevés. D'accord? Ah. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Quand on parle de religion ici, on parle de crainte hein, dans le grec. Si quelqu'un pense avoir la crainte de Dieu, d'accord? Ça va? Si quelqu'un pense avoir la crainte de Dieu sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son propre cœur, sa crainte en Dieu, elle est vaine. La crainte de Dieu pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Wow! Wow, finit bien ce chapitre, non? Il y a des veuves et des orphelins ici? Et j'en viens à Jacques 4, 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous les élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alors, c'est vrai que là, on pourrait très bien penser... c'est vrai que j'ai mis cette image-là. Parce qu'elle m'a choqué cette image, mais elle est tellement, je la trouve très belle. Je pense qu'à la limite, on devrait l'afficher dans l'église, cette image. Le travail le plus difficile, c'est le travail sur soi-même. Et ouais, mais pas que dans l'église, hein, partout. Hein. D'accord? C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans le contexte là d'un culte, donc effectivement. Mais vous voyez, cet homme, il était obèse et il travaille sur lui. Il enlève tout ce qui servait à rien, clairement, et il sculpte son propre corps. Il travaille sur lui-même. Il travaille sur lui-même. Retenez bien cette image, elle est importante. Et même cette affirmation, le travail le plus difficile, c'est le travail sur soi-même. Ouais. Alors, humilité ou humiliation? Quand on dit qu'il faut se rabaisser devant Dieu pour que Dieu nous élève, est-ce que c'est une notion d'humilité ou c'est de l'humiliation? Est-ce que vous pensez que Dieu veut vous humilier ce matin? Je joue sur les mots parce que le terme est le même, hein, clairement. Sauf que il y a l'aspect péjoratif de l'humiliation. Il y a aujourd'hui des mouvements ou des sectes qui aiment humilier des personnes pour pouvoir les briser et en faire un peu les malaxer comme eux l'entendent. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu n'est pas là pour t'humilier dans le mauvais sens du terme. Il veut que toi-même, tu puisses t'humilier, d'accord? Que tu puisses dire, « Ok, Seigneur, moi, devant toi, je suis rien. Je suis rien. Mais c'est toi qui as fait en sorte que ce que moi, je suis, eh bien, je vais devenir pour toi. Je vais devenir ce que tu veux que je sois pour toi. » Ouais? Alors, humilité, humiliation, on va regarder juste, regardez, les définitions. Par contre, là, c'est trop loin pour moi. L'humiliation est une forme intense, voire radicale, de souffrance psychique. Elle dévalorise, méprise et met en cause le droit de l'individu à vivre, à être, sans justification. Elle tend en effet à effacer le sujet dans sa qualité même d'être humain. Ça, c'est une définition psychologique de ce qu'est l'humiliation. Est-ce que vous pensez que Dieu veut ça pour vous? Non. Ce que Dieu veut, c'est l'humilité. Et là, c'est une forme de conscience aiguisée de ses propres limites qui permet d'éviter l'orgueil, la suffisance, la vanité au profit de la modestie. Ainsi, l'humilité est un état de conscience et la modestie en est la manifestation sociale. Wow, c'est bien, hein ? Moi, j'aime bien ça. J'aime bien. Si un jour tu trouves que je suis orgueilleux, viens me le dire. On devrait tous pouvoir dire ça ce matin. Si tu vois en moi une forme d'orgueil, viens me le dire. Viens me dire, attention Fred, parce que là je sens que... Et peut-être que je ne serai pas d'accord avec toi, parce que je serai trop orgueilleux pour le reconnaître. Par contre, peut-être que je vais l'accepter, ce que tu vas me dire. Et pouvoir dire, mais ouais, ah ouais, c'est vrai dans ce domaine-là, ah ouais, ah ouais, ouais. Et pour ça, on a la parole, la Bible, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est là soit pour nous confronter ou soit pour nous conforter. Il y a juste deux lettres qui changent. Soit nous confronter, soit nous conforter. Et pareil, on va prendre des définitions. Allons-y. Confronter, mettre des personnes en présence pour comparer, vérifier leur dire. Confronter l'accusé avec sa victime. Alors, peu importe, on n'est pas là pour accuser ou des victimes. Mais la parole de Dieu, elle est là pour te confronter. Elle est là pour te remettre un peu à l'heure. Elle est là pour te remettre à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu dévies. Et la parole, eh bien, elle est là pour nous confronter, pour dire, OK, dans tel ou tel domaine de ma vie, ben, ce n'est pas ça, il ne faut pas que je fasse ça. Dernièrement, j'ai dû donner une direction biblique à quelqu'un et il ne l'a pas accepté. Je lui ai dit, voilà, la parole dit que... Et la personne m'a dit, non. Et il n'a pas accepté. Ça arrive. Comparer des choses pour déceler des ressemblances ou des différences, confronter des textes de point de vue, mettre quelqu'un en présence d'une difficulté, d'un problème auquel il doit faire face. Parfois, la parole nous fait faire face à des difficultés que l'on a, à des traits de caractère, parce que Dieu veut nous confronter pour que nous puissions grandir et pouvoir avoir cette humilité de travailler devant lui et être là et dire « Oui, Seigneur, écoute, s'il y a un tel ou tel domaine dans ma vie, je veux que tu m'aides à pouvoir effacer ça de ma vie et pouvoir travailler sur moi-même. » Et à partir de là, on va être conforté, renforcer quelque chose, le rendre plus solide, rassurer quelqu'un, le réconforter. Ça, c'est aussi le rôle de la Bible, la parole de Dieu. La parole de Dieu avec l'éclaircissement du Saint-Esprit. Vous êtes toujours avec moi? L'humilité devant Dieu est un domaine hyper important. Et voyez, même on a deux exemples qui sont importants dans la Bible. Regardez Jean-Baptiste, ce qu'il a dit dans Jean 3:30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Là, il parlait de Jésus. Jean-Baptiste, à un moment donné, il a fait son œuvre, il a bien travaillé, il a fait un ministère extraordinaire. Et puis quand il a su que Jésus commençait à baptiser, et qu'il était dans son œuvre et qu'il rentrait dans son ministère, la chose qu'il a dit, quand ses disciples sont venus le voir, et qu'ils lui ont dit, mais attends, il y a quelqu'un là-bas qui est en train de baptiser comme toi tu le fais, etc. Et Jean-Baptiste a répondu à ses disciples en disant, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Parce que c'est lui l'œuvre de Dieu, c'est pas moi, c'est lui l'envoyé de Dieu. C'est lui qui travaille mieux que moi. C'est lui qui doit être mis en premier. C'est lui qui doit être mis à la première place de ma vie. C'est lui qui doit être mis à la première place de toutes les vies. Et pareil, hein. Ah, c'est juste après. On a le même cas pour Jésus. Hein. Vas-y, Cassandre, passe là, juste celle d'après. Voilà, c'est Jésus qui dit, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Jésus s'est abaissé en tant qu'homme et dans la mort, il s'est abaissé pour que Dieu puisse l'élever. Et qu'aujourd'hui, on puisse être tous là et pouvoir glorifier le nom de Jésus-Christ. Là, je suis déçu, par contre. Parce que je m'attendais quand même à un gros amen ou à une grosse marque de joie, là. Jésus s'est fait homme. Il a accepté la mort. Il a accepté de pouvoir être martyrisé, d'être sacrifié sur une croix pour que Dieu puisse l'élever et qu'aujourd'hui, on soit tous là en train de le louer. Amen. L'identité sociale, c'est la théorie de la distinctivité optimale. Il y a un curseur. Hein. Il y a un curseur qui fait que soit on se désindividualise, soit on se marginalise. Et parfois, dans les chrétiens, on voit ça. La marginalisation ou la désindividualisation. C'est dur à dire. Hein. Je l'ai fait d'un coup, hein. Vous avez vu ? Vous avez remarqué, non ? Je ne me redemandais pas une deuxième fois de dire désindividualisation. C'est un curseur. Ressembler à autrui ou se distinguer d'autrui. L'idéal, c'est d'être au centre, c'est de pouvoir dire, moi, j'ai ma propre identité, j'obéis à Dieu parce que Dieu me met des choses dans mon cœur, mais je travaille avec autrui. Je travaille dans le sens où je vais trouver une place, je vais trouver ma place, pas la place. Je ne vais pas combler un trou parce que Dieu va faire en sorte que par mon humilité, c'est lui qui va m'élever. C'est lui qui va faire en sorte que je puisse être à ma place et c'est là où mon talent va se révéler. C'est là où Dieu va vraiment travailler en moi et que je vais bénir les autres. Je vous rappelle le dernier verset de Jacques 1 qui dit qu'il faut visiter les veuves et les orphelins. Pourquoi ? Parce qu'avant toute chose, on aura travaillé sur nous-mêmes. J'en dis pas plus parce que je pourrais faire 4 dimanches ou 5 dimanches, il y a 5 chapitres dans Jacques. Vas-y Cassandre. Le premier verset de Jacques, dernier verset de Jacques, enfin verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. D'accord ? Vous vous souvenez des épreuves ? J'aime bien des fois regarder le premier et le dernier verset d'un livre. C'est amusant à faire. Faites-le, ça, c'est rigolo. Regardez, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et dans le dernier, Jacques 5, 19 et 20, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Et là, moi, je dis amen. Amen. Pourquoi ? Parce qu'on aura travaillé sur nous-mêmes, on prendra soin de l'autrui. Si tu travailles sur toi-même et si Dieu t'élève et que tu prends une place qui est bonne, forcément tu travailleras avec tes frères et sœurs, pour tes frères et sœurs, et tu sauveras des morts. Et tu ressusciteras des morts. J'entends des morts spirituelles. Et ça, c'est un sujet de joie, non ? Non ? Non ? Dernière dia. Bruce Lee. Tout le monde connaît Bruce Lee ? Ouais, je sais. Pareil, je suis un vieux. C'est un karatéka, il a fait beaucoup de films. Et il a dit, être humble envers ses supérieurs est un devoir. Envers ses égaux, c'est de la politesse. Vers les personnes qui sont inférieures, c'est de la noblesse. Mais vers tous est le salut. Il était habité avec quelque chose, et, enfin, je sais pas, et pour dire des trucs comme ça, c'est profond quand même. C'est profond. Bruce Lee a dit ça. Bon, c'est pas comme son frère, hein, Broco. Brocoli. Non, il était... Être humble envers ses supérieurs est un devoir. Vers ses égaux, c'est de la politesse. Vers les personnes qui sont inférieures, c'est de la noblesse. Et vers tous est le salut. Et j'arrête là. On va se lever, on va prier. J'espère que vous êtes touchés, comme moi je l'ai été. Quand j'ai préparé cette prédication. Aurélie, tu peux te mettre au clavier. J'ai été un petit peu plus long, j'en suis désolé. Mais je pourrais parler longtemps, on pourrait parler longtemps de Jacques. Plongez-vous dans le livre de Jacques. chaque mot, que vous preniez chaque mot de Jacques, vous verrez, les exhortations sont hyper profondes. Et si on arrive à mettre ça en pratique, si on arrive à mettre le livre de Jacques en pratique, je peux vous assurer qu'il va se passer des choses grandes. Je la refais. Si on arrive à mettre toutes les choses qui sont préconisées dans Jacques, je peux vous assurer, je peux vous promettre que l'on verra des choses grandes.
Amen.
Ah là là. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es un Dieu glorieux. Tu es un Dieu magnifique, Seigneur. C'est bon de pouvoir te servir. C'est bon d'être avec toi. C'est bon de pouvoir être là ce matin et de pouvoir dire, Jésus, c'est toi que j'aime, c'est toi que je sers, c'est toi que je loue, c'est toi que je veux mettre à la première place dans ma vie. Parce que tu es à la première place. Et je veux que tu restes, Seigneur. Je te réclame maintenant à ce que tu restes à la première place. Que tu puisses révéler en chacun de nous, Seigneur, s'il y a des choses qui ne sont pas de toi, que l'on puisse rentrer dans cette humilité pour toi, avec toi. Que l'on puisse réellement, Seigneur, prendre conscience que sans toi, nous sommes rien. Sans toi, je suis rien, Jésus. Et je suis sûr que si je ne t'avais pas eu dans ma vie, peut-être que je serais au cimetière aujourd'hui. J'en sais rien. Mais Seigneur, moi, je veux croire que toi, tu as fait des belles choses dans ma vie et que tu n'as pas fini et que tu feras des choses encore plus grandes dans ma vie. Tu feras des choses encore plus grandes. Et pas que dans la mienne, mais dans la vie de chacun ici. Seigneur, moi, je veux bénir chacun des cœurs ici. Peut-être que certains n'ont pas accepté Jésus dans leur vie. Peut-être que vous, pour vous, on est un peu des... Je vise personne, bien évidemment, mais peut-être qu'il y en a qui nous prennent un peu pour des illuminés. Et c'est le cas dans le monde. Quand on parle aujourd'hui de certains principes bibliques, dans le monde, on est pris pour des fous. Pourquoi ? Parce que le monde marche sur la tête aujourd'hui. La Bible nous dit bien que le mal serait appelé bien et le bien serait appelé mal. Pourquoi ? Parce que dernièrement, j'ai témoigné avec quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Je lui ai dit, mais même si Dieu n'existait pas, même si Dieu n'existait pas, les principes bibliques sont bons. Et si je les mets en pratique, et même si un jour je me rends compte que Dieu n'existe pas, ce qui est complètement impossible, parce que tout révèle que Dieu existe et que Jésus est bienvenu sur cette terre et qu'il a donné sa vie pour toi, mais même si un jour je me rends compte que Dieu n'existe pas, les principes que j'aurais utilisés dans la Bible sont bons et ma vie aura été bonne. Mais Dieu existe. Dieu existe. Et Jésus, il a donné sa vie pour toi ce matin. Il a accepté lui-même de s'humilier, d'être dans cette... Et lui, il a vraiment vécu l'humiliation dans le sens négatif du terme. Il a été fouetté, il a été meurtri, il s'est passé des choses sur son corps, etc. Mais aucun de ses os n'a été brisé, parce qu'une prophétie avait dit qu'aucun de ses os ne serait brisé. Il n'a pas été brisé, il a juste été rabaissé, et Dieu l'a élevé. Et Dieu l'a élevé au point que tu connais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout sur terre montre que Jésus existe, et qu'il est vivant, et que ce matin il te voit, et qu'il a les yeux fixés sur ton cœur, et qu'il sait le moindre détail de ta vie, il les connaît, les moindres détails. Juste un dernier témoignage, et après je m'arrête parce que je suis super bavard ce matin et je vais me faire gronder. Le 7 juillet 2007, j'animais la louange dans une autre église, et je m'étais amusé. Et j'ai dit, voilà, j'ai commencé ma louange en disant, aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet 2007. 777, le chiffre de Dieu. Je vous annonce que Jésus revient cet après-midi. Et j'ai laissé un silence. Je peux vous assurer que la tête des gens était rigolote à voir. Ouais. Un dimanche, j'ai dit ça. J'ai dit, voilà, je vous annonce, Jésus revient cet après-midi. Aujourd'hui, on est le 777, c'est le chiffre de Dieu. Jésus revient. Si Jésus revient cet après-midi, tu vas où ? Mets ta vie en ordre. Accepte cette humilité devant Dieu, de t'humilier devant Dieu pour que lui puisse t'élever. Accepte de pouvoir dire, Seigneur, mon cœur, il est à tel domaine, il n'est pas conforme à ce que toi tu désires. Pardonne-moi, pardonne-moi. Aujourd'hui, dans les églises, on ne prêche plus la repentance. Et pourtant, la repentance est hyper importante. On ne prêche plus l'enfer. Et pourtant, ça existe. On ne prêche plus le diable, pourtant il est là. Alors ce matin, si tu n'as pas accepté Dieu dans ta vie, fais-le, ne tarde pas, fais-le. Si tu as besoin et tu me dis, voilà, je ne sais pas comment on fait pour faire ça, viens me voir après, ou viens voir Alex, viens voir Johan, viens voir Nicolas si tu es un jeune et que tu veux voir un jeune, viens voir Nadia, viens. Mais parle-en à quelqu'un et que cette personne puisse te dire, voilà, moi depuis que j'ai accepté Jésus dans ma vie, Wow. Il y a un poids qui est parti parce que Dieu a pris mes péchés. Il les a jetés au plus profond de la mer. Seigneur, merci. Merci de toucher maintenant les cœurs. Seigneur, je veux voir un souffle de ton esprit maintenant qui passe. Et que ce souffle de ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse aller combler des failles, aller toucher là où ça fait mal, que tu puisses mettre le doigt sur des choses que l'on doit enlever. Mais fais-nous prendre conscience. Fais-nous prendre conscience qu'on n'est pas, on n'est pas chez Auchan. On n'est pas au Flunch. Et que je ne prends pas ce que je veux parce que, voilà, c'est comme ça. Mais au contraire, Seigneur, s'il y a des choses sur lesquelles tu veux que je travaille, c'est parce que c'est pour mon bien. C'est parce que tu veux que je grandisse. Tu veux que je grandisse. Tu veux que je grandisse encore. Et c'est pour ça, Seigneur, que je te rends grâce ce matin et que je te loue.